Et c'est à ce moment-ci qu'on va rejoindre Olivier Beauregard pour, bien sûr, parler sport comme on le fait chaque jeudi après-midi. Olivier, bonjour!
Salut, comment ça va?
Très bien. Et là, on commence en parlant du Canadien de Montréal parce que là, ben, le match d'ouverture a eu lieu, un autre match ce soir. Enfin, il y a beaucoup de matchs dans la première semaine, là, mais ouais. On va revenir sur ce début de saison là, pour le Canadien.
Oui, absolument, parce que c'est un peu un scénario pas catastrophique, mais difficile pour une équipe professionnelle de débuter avec autant de matchs en si peu de temps. C'est une question de cohésion, c'est une question également que tout le monde trouve leur chaise un peu dans l'alignement, puis ça donne pas beaucoup de jeu. Là, si j'étais Martin Saint-Louis, là, je me gratterais les cheveux pas mal. Parce que, justement, je trouve que le calendrier est vraiment, vraiment éreintant en début de saison pour le Canadien. Pas que je leur cherche d'excuses, parce que quand on regarde le match d'ouverture qui a eu lieu hier à Montréal, le Canadien a accordé plus de 40 lancés et ça s'est terminé par un blanchissage de 1-0. Sam Montembeault a été tout à fait extraordinaire, là. Ça me fait rire parce que les débats des dernières semaines, c'était de savoir si Sam Montembeault était un gardien numéro un, parce qu'on ne l'avait pas assez utilisé dans le camp préparatoire. On disait que c'était pas normal qu'il avait joué deux moitiés de période plus un match complet là, pour un gardien numéro un. C'est pratiquement lui dire qu'on ne lui fait pas confiance. Et pourtant, hier, c'est lui qui a eu le départ, c'est lui qui a réagi de la meilleure façon possible. Tu sais, c'est pas n'importe qui, là. Il a arrêté l'attaque d'Austin Matthews et des Maple Leafs de Toronto. Je veux dire, il a fait un travail remarquable. C'est pas parce que les gars en avant-deux ont si bien joué que ça. Là. Quand t'accordes plus de 40 lancés, là, les occasions de marquer puis les chances de qualité sont quand même nombreuses. Bref, je pense que ça, c'est un point d'interrogation qui, pour l'instant, est intéressant pour le Canadien. C'est-à-dire que je pense que Sam Montembeault a prouvé qu'il mérite sa chaise, qu'il mérite du moins là, d'avoir des départs de qualité d'ici le prochain mois, ça c'est sûr et certain. J'ai regardé également les dernières redirections de l'équipe parce que quand on se parlait la semaine dernière, on était en plein camp d'entraînement, mais là, on a fait la liste finale de l'alignement du Canadien cette semaine et je sais que ça a jasé pas mal dans les coulisses. Là, les gens n'étaient pas contents parce que Joshua Roy s'en allait à Laval. Écoutez, là, premièrement, Joshua Roy, c'est un joueur de 21 ans. C'est un gars qui a une année professionnelle dans le corps, puis c'est l'an passé. Avant ça, là, il jouait dans la Ligue junior majeure du Québec. Puis oui, il faisait flèche de tout bois, mais il y a une adaptation quand tu arrives dans la Ligue nationale. L'an passé, je pense qu'il est arrivé dans un bon scénario, c'est-à-dire qu'on avait un urgent besoin d'attaque. On a peut-être précipité les choses dans son cas. Mais cette année-là, si on est honnête, puis si on y va objectivement, là, Joshua Roy n'a pas connu un gros calendrier préparatoire cette année. Quand tu veux avoir une place, une chaise dans la Ligue nationale, là, dans une équipe, ben tu dois être capable de déloger quelqu'un. Même si tu étais là l'an passé, tu dois prouver que toi, tu mérites d'être là avant une autre personne. Et là, je sais qu'il y a des gens qui disent, ben Joël Armia, au salaire qu'on le paye, il devrait être plus performant. Oui, sauf que, écoutez-moi, là, Joshua Roy, là, il n'a pas été meilleur que Joël Armia. Puis évidemment qu'il y a une hiérarchie dans la Ligue nationale. Alors, si Joël Armia a fait suffisamment pour rester dans la formation, ben, ça veut dire que Joshua Roy n'a pas fait assez. Et ça, c'est malheureux, mais à un moment donné, il faut être objectif, puis je pense que c'est déjà la bonne décision, parce que je connais le personnage, je sais qui est Joshua Roy. Je vous dis pas que c'est pas un joueur talentueux, au contraire. Je vous dis que c'est un gars, par exemple, qui va devoir travailler sur plusieurs aspects de lui-même avant de vouloir évoluer à temps plein dans la Ligue nationale. Tu peux pas te présenter à 21 ans dans un cadre de la Ligue nationale, puis te attendre les occasions que les occasions viennent à toi. Je veux dire, faut que tu aies créé ces occasions-là. Et dans son cas, je pense que c'est la bonne décision. Tant mieux si ça va bien à Laval. Puis de toute façon, dans les prochaines semaines, c'est à lui de prendre justement cette opportunité-là, c'est-à-dire de commencer à performer puis de montrer que lui, là, ce qu'il veut, c'est être retourné en haut le plus rapidement possible. Alors, j'espère pour lui qu'il va arriver avec une bonne attitude à Laval, puis il va être rappelé plus tôt que tard s'il a besoin d'être rappelé, puis si justement ses performances le suivent. Bref, ça, c'est pour le dossier Joshua Roy. Mais tout ça pour dire que l'alignement final du Canadien, il n'y a rien de surprenant. Là. Kapanen qui reste avec l'équipe, moi, je pense que ça a été le meilleur ou la meilleure recrue après Lane Hansen dans le cadre du Canadien. Il mérite totalement sa chaise. D'ailleurs, il sera en uniforme ce soir. Il va prendre la place d'Emil Heinemann dans la formation contre les Bruins de Boston. Je pense que c'est pas volé. Lui doit prendre du galon dans la Ligue nationale. Puis Martin Saint-Louis disait en point de presse, midi, là, il disait, écoutez, moi, je veux que ce gars-là voit des matchs, qu'il comprenne c'est quoi le rythme d'un match de saison régulière. Puis c'est pas en le laissant sur les lignes de côté qu'il va rester avec nous longtemps. Donc, je pense que là, c'est le temps. On le lance dans la mêlée. Hier, ça a été un match à Montréal. L'équipe a voyagé dans la nuit pour se rendre à Boston. Elle a affronté une équipe qui se sont fait sacrer une sincère, comme on dit dans le jargon, contre les champions en titre. Alors moi, je pense que c'est intéressant de voir ce que le Canadien va faire ce soir, justement, d'insérer un joueur dans la formation qui n'a pas patiné hier, qui est prêt à jouer du hockey, Puis devant le filet, ben le gros point d'interrogation ce soir, c'est Kaydon Primeau. Il y a beaucoup de doutes à son sujet. Est-ce qu'il est prêt à devenir un gardien de la Ligue nationale? Est-ce qu'il peut être un bon gardien substitut dans la Ligue nationale? Tu sais, il n'y a pas si longtemps, ce gars-là, tout le monde dit que c'est le prochain Carey Price. Mm-hmm. Ben, il n'a rien cassé dans la Ligue américaine. Alors, ça sera à suivre pour lui. S'il veut cette chaise-là, il est mieux de prouver à Kent Hughes et à l'état-major du Canadien que ben il mérite cette chaise-là. Alors, c'est un match qui est très important. C'est peut-être juste le premier match de la saison régulière, là, mais c'est un match qui est hyper important pour lui ce soir. Alors, ça va être intéressant de jouer le Boston canadien. Ça a toujours du bon jus, pareil.
Ben, même ton chien a l'air de trouver ça intéressant à surveiller ce soir.
Mon chien est hâte, il se peut plus. Là. Il est hâte, ça commence.
Peut-être qu'il va jeter un coup d'œil, lui aussi, au match des Sénateurs ce soir parce qu'eux débutent leur saison aujourd'hui.
Oui, absolument. Puis les Sénateurs d'Ottawa, on avait hâte justement de voir l'entrée en scène. Il y a des nouveaux visages. Je pense à David Perron, le Québécois, qui s'est amené. C'est un champion de la Coupe Stanley. C'est sûr et certain que dans le cas de David Perron, il est plus vieux, là. Mais je pense que le leadership, c'est ce qui manque le plus à cette équipe-là, malgré le fait qu'il y ait des Thomas Chabot, malgré le fait qu'il y ait des Claude Giroux, malgré le fait qu'il y ait des Brady Tkachuk, ça prend une voix forte, une voix qui a gagné. Et je pense que David Perron, c'est un bon candidat pour les Sénateurs. C'est sûr et certain que lui, ce qu'il va amener, c'est de l'expérience. Ce qu'il va amener également, c'est une façon de gagner. C'est-à-dire que dans les matchs où on est sur la corde raide, où tout se joue par un jeu, mais c'est le genre de gars que tu veux sur la glace ou que tu veux justement qu'il amène son expérience aux autres joueurs parce que c'est une équipe qui est relativement jeune. Mais ce qui est intéressant chez les Sénateurs, c'est que, on a peut-être réglé le problème de la dernière décennie chez les Sénateurs d'Ottawa, c'est-à-dire celui-là du gardien de but. Évidemment qu'on a fait l'acquisition de Linus Ullmark et des Bruins de Boston cet été, mais là, on lui a accordé une prolongation de contrat de 4 ans, 33 millions de dollars américains au total là, pour ce contrat-là. Moi, je pense que ça va de soi parce que Linus Ullmark, c'est un très, très bon gardien dans la Ligue nationale. D'ailleurs, en match préparatoire contre le Canadien, il a été tout simplement flamboyant. Moi, je pense que le Canadien, pas le Canadien, mais si les Sénateurs viennent de régler ce problème-là, là, c'est une équipe qui pourrait prendre du galon cette année. Puis, je vais me mouiller, là, c'est une équipe qui pourrait peut-être participer aux séries éliminatoires. Là, parce que, finalement, tu as un gardien de but. Tu sais, l'an dernier, on pensait que Jonas Corpusalo, c'était le gars des Sénateurs. Il est arrivé là, ça n'a pas marché comme à peu près tous les essais qu'on a essayé avec les gardiens au courant des dernières années. Tu sais, Cam Talbot, ça a été un fiasco. Puis, je passe Anton Forsberg, puis etc., etc., qui ont eu des bons moments, mais pas assez pour amener cette équipe-là en série. Alors, je pense que là, du côté des Sénateurs, on a un gardien de qualité. Alors, c'est l'entrée en scène ce soir contre, justement, les Panthers de la Floride. Moi, je pense que ça va être un match très intéressant, puis ça va aussi établir un peu les bases de cette formation-là. Qu'est-ce qu'on peut s'attendre des Sénateurs? Parce que les champions en titre, là, je vous le dis, pas une équipe facile à affronter, les Panthers. Puis ce soir, ça va être un bon test pour les Sénateurs d'Ottawa.
Allons dans la NFL maintenant et parlons d'Aaron Rodgers qui est pointé du doigt.
Ouais, ça a pas pris de temps. Il est accueilli en héros là-bas, mais les médias à New York sont très, 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 très agressifs. Et avec les Jets, c'est des saisons de misère par-dessus des saisons de misère. Et là, il y a pas beaucoup de matchs de jouer dans la NFL. Il y en a pas beaucoup, mais ce qu'on dit, c'est que récemment, il y a eu un congédiement important du côté des Jets de New York, et c'est celui de leur entraîneur-chef, Robert Saleh. Et Robert Saleh, là, c'est un gars qui est de la vieille école, mais qu'en même temps, qui n'avait pas énormément d'expérience. Puis lui et Aaron Rodgers, on les a vus notamment dans un match cette saison, un peu se parler sur les lignes de côté, puis se parler un peu sévèrement. Je peux dire ça comme ça, là, pour être poli. Là. Pas longtemps après, on annonce justement que l'état-major des Jets de New York ont décidé de licencier, dans le fond, leur entraîneur-chef. Parce que il y avait des divergences d'opinion, etc., etc. Alors, tu comprendras qu'à New York, on a tout de suite remis cette séquence-là un peu partout
ben oui.
Et dire, mais là, c'est Aaron Rodgers. Est-ce qu'Aaron Rodgers est le responsable du congédiement de Robert Saleh? Et aujourd'hui, dans les médias, il y a un point de presse, justement, avec Aaron Rodgers. Et Aaron Rodgers s'est fait poser la question plusieurs reprises. Puis je vais te répondre exactement ce qu'il dit. Il dit, en ce qui concerne les allégations ridicules, là, je vais y répondre par une phrase. Je n'apprécie aucune de ces accusations parce qu'elles sont manifestement fausses. C'est intéressant de voir que le pouvoir que les gens pensent que j'ai, alors que j'en ai pas du tout. Et c'est intéressant ce qu'il dit à Aaron Rodgers.
Pas du tout, quand même.
Depuis qu'il est arrivé là-bas, on lui donne un peu tout le crédit pour le succès de l'équipe, mais on lui donne également toute la faute sur les déboires de l'organisation. Mm-hmm. Et c'est un peu ça, le rôle d'un statut d'un carrière vedette. Mais écoutez-moi bien, là. Aaron Rodgers n'ira pas voir les médias puis dire « Ouais, j'étais plus capable de le sentir. J'ai dit au propriétaire, sacrez-moi ça dehors. » Même si c'est ça qui est arrivé, là, ce gars-là, là, il a assez d'expérience dans la NFL. pas son premier entraîneur-chef. Il en a passé une dizaine avec les Packers de Green Bay. C'est sûr et certain qu'il ne serait jamais allé dire ça dans les médias. Alors, peu importe si c'est ça, pas besoin de partir à la chasse aux sorcières, Sébastien.
Ben
je veux dire, arrêtons de pointer du doigt. Je pense que si on veut que les Jets de New York s'améliorent au fil de la saison, tu n'as pas le choix d'avoir un gars comme Aaron Rodgers dans une bonne situation, dans une bonne position et également dans une bonne position mentale. C'est-à-dire que ce gars-là doit être capable de, disons, performer au maximum de ses capacités si on veut que les Jets puissent connaître une saison potable. D'ailleurs, ça sera difficile parce que les Jets, c'est pas encore une puissance et ça ne sera pas, mon ami, au courant des prochaines semaines selon le calendrier.
De là à dire qu'il n'y a pas de poids du tout, ça, j'ai de la misère à y croire, mais quand même.
Ben, c'est une bonne lecture. Non, mais c'est absolument une bonne lecture parce que c'est pas vrai qu'Aaron Rodgers a pas de poids dans cette formation-là. C'est une équipe qui a un dossier de 2 victoires, 3 défaites, mais les 2 victoires sont en grande partie grâce à Aaron Rodgers. C'est un gars qui a un peu changé le visage de cette franchise-là qui allait nulle part dans les dernières années. Alors pour moi, c'est sûr et certain qu'on écoute son opinion. Après, est-ce qu'il y a eu d'autres histoires à l'interne? Ça se peut parce que le propriétaire a pris vraiment le blâme sur le licenciement. Mais soyons assurés que si Aaron Rodgers a eu son mot à dire, ben, il ne dira pas devant le micro, c'est sûr et certain.
Là, ben, il y a Raphaël Nadal aujourd'hui qui a annoncé sa retraite sous peu. Ben, en fait, on savait que ça s'en venait, là, c'était de savoir quand ça allait arriver, mais c'est comme la fin d'une époque. Là.
Absolument, puis surtout au courant des 2 dernières années, il était là, mais il n'était pas là. C'était des blessures un peu tout le temps. On se disait, OK, Raphaël Nadal commence à être vieux, parce que oui, il est maintenant âgé de 38 ans, puis à 38 ans dans le monde du tennis, ça commence à être vieux, surtout là avec la génération d'aujourd'hui. Le tennis est tellement plus physique, le tennis est tellement plus rapide, que ça, on le voit, là, que plus tu vieillis en âge, plus ça devient difficile à suivre, malgré le fait que Raphaël Nadal, c'est l'idole d'une génération au niveau du tennis. Mais il l'a annoncé aujourd'hui dans un message vidéo qu'il allait prendre sa retraite du tennis et ça va se faire là au courant des prochaines semaines, c'est-à-dire au mois de novembre. Il va terminer ça en beauté chez lui à Malaga en Espagne pour la Coupe Davis. Il a dit que, écoutez, j'ai fait ce que j'avais à faire. Les blessures des dernières années m'ont quand même apporté une certaine réflexion qui a fait, OK, combien de temps je peux encore continuer à jouer comme ça malgré les douleurs que je ressens. Mais tu sais, Raphaël Nadal, c'est un gars qui a remporté 22 titres du Grand Chelem. C'est un gars qui a toute la médaille, tous les trophées possibles dans le monde du tennis. Là, 209 semaines au sommet du classement de l'ATP. 18 années consécutives dans le top 10. 92 titres en simple. Puis 1080 victoires au total. C'est incroyable. Puis là, ben, si je vous parle de son salaire, il y a un peu moins de 135 millions de dollars de gagnés depuis ce temps-là. Là, mais je veux dire, ça risque que Raphaël Nadal, c'est un athlète d'une génération. C'est un gars qui a affronté les meilleurs de tous les temps en Novak Djokovic, en Roger Federer. C'est un gars qui était dans une époque où le tennis était excessivement compétitif, excessivement difficile, surtout chez les hommes. Là. Et je crois que honnêtement. Aujourd'hui, c'est comme l'annonce de la fin d'un des plus grands de l'histoire. C'est aussi grand que le retrait de Michael Jordan du monde de la NBA. Pour moi, Raphaël Nadal, ça va plus loin que juste le tennis. Ça va dans le monde du sport au grand complet. C'est un athlète qu'on va se rappeler, pas non seulement pour son sport, mais pour le sport en général. Il a tellement apporté. C'est une figure marquante de l'histoire sportive de notre génération. Alors, c'est une très, très grosse bombe, même si, comme tu l'as mentionné d'entrée de jeu, Sébastien, ben, tu sais, on n'a pas le choix de te dire qu'on s'en attendait un petit peu au courant des dernières années, en raison de toutes les blessures qu'il a connues. Mais bref, ça va être un moment très, très, très pour lui, j'ai l'impression, et surtout ça va être rempli d'émotions pour les partisans lors de la Coupe Davis au mois de novembre.
Et ben, passons d'un départ à un autre, parce que tu avais quelques mots à dire à la suite de l'annonce du départ de Kim Lacaille ce matin sur nos ondes.
Ben oui, j'ai entendu ça un peu comme les auditeurs, puis honnêtement, c'est quasiment aussi gros que la bombe de Raphaël Nadal, parce que Kim Lacaille, c'est 28 ans à CAGA, ça fait partie des meubles dans mon livre à moi. Écoute, je l'ai rencontré à mon arrivée là-bas en 2010-2011. J'ai côtoyé Kim là-bas, Sébastien, et puis honnêtement, j'ai passé vraiment de très, très bons moments avec elle. Je vais toujours me rappeler de nos lunch date au Notre-Dame ou à la boucherie. Kim, ça a été une personne qui, vous le savez, là, je pense que ça a été dit ce matin, mais c'est une personne qui est très joyeuse, très joviale, qui est ricaneuse surtout, puis moi, je suis une personne un peu hyperactive. Fait que Kim, elle embarquait dans mes niaiseries, puis vice-versa, j'embarquais dans mes niaiseries à Kim. Elle m'a déjà habillé en femme, puis elle m'a fait parader à Maniwaki pour que Mathieu Langevin gagne un concours à Star Academy. Puis je vais te dire une affaire, il y a juste Kim Lacaille pour avoir réussi à me convaincre de faire ça. Ça a été vraiment des années que je vais me souvenir toute ma vie. Kim, ça a resté une amie, même si on se voit moins, on se parle moins souvent. Puis quand j'ai vu cette annonce-là aujourd'hui, je me suis dit, puis je suis pas inquiet pour la radio, parce que la radio CAGR, c'est une radio qui va toujours fonctionner, mais c'est quand même un monument qui quitte la radio CAGR aujourd'hui. Puis je veux lui souhaiter le meilleur des succès. Bonne chance pour la suite, Kim, puis on va suivre ta prochaine carrière, ça c'est sûr et certain.
Mais voilà, on va lui transmettre ces bons mots-là. Lévi Beauregard, un grand merci, puis on se donne rendez-vous jeudi prochain.
Absolument, merci, bye bye.